un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Qui a mis le feu au jardin et à la voiture d'une habitante de Verfeil en Haute-Garonne à la fin du mois d'août 2024 ? Qui sont les auteurs de ces deux tentatives d'incendie à 8 jours d'intervalle ? Et pour quelles raisons ? Qui sont ces 4 personnes qu'elle dit avoir aperçues, habillées de noir et cagoulées ? Est-ce que ce sont eux qui ont fabriqué des cocktails Molotov et apporté chez elle des bidons d'essence ? Qu'a-t-elle fait pour mériter ça ? Pourquoi une telle violence ? Elle s'appelle Alexandra et il se trouve que sa maison se situe exactement sur le tracé de l'autoroute A69. Ce serait même la dernière maison habitée avant travaux, le caillou dans la chaussure, un irréductible village gaulois en forme de verger abondant, perdu en territoire autoroutier. Et une énième péripétie dans la bataille entre le concessionnaire Atosca, chargé des travaux et soutenu par l'État, et les écologistes qui s'opposent à la construction de ce tronçon de 53 km destiné à relier Castres à Toulouse. Le projet, on le sait, est jugé inutile par les uns et en passe de ravager plus de 400 hectares de terre, plus de 1000 arbres parfois centenaires et de vastes zones boisées et humides. Et au contraire, super pratique pour les autres, puisque l'A69 permettrait de gagner 15 à 20 minutes par trajet, de relancer, disent certains, l'activité économique de la région, même si l'aller-retour devrait coûter 17 euros environ, soit 340 euros par mois pour des trajets quotidiens. Qui s'en est pris à cette habitante et comment en est-on arrivé là ? Il appartiendra bien sûr à l'enquête confiée à la gendarmerie de nous le dire. En attendant, voici le récit à la première personne de cette femme à bout de nerfs par Rémi Dibowski-Douat.
Je m'appelle Alexandra, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants, un petit bout de 4 ans et un grand de 21 ans. J'habite à Verfeil, je suis à 17 km de Toulouse. Je suis sur le tracé de la 69, de la future autoroute. J'ai emménagé ici le 1er novembre 2013. Et puis voilà, en 2021, une semaine avant Noël, je travaillais dans un bar de nuit et donc quand je rentre le soir, mon compagnon me dit « on a quelqu'un qui est venu à la maison, un représentant d'une société d'autoroute, ils vont construire une autoroute sur la maison, on a un an pour partir ». C'est le choc parce qu'on ne comprend pas. Je sais que quand j'ai aménagé moi dans cette maison à l'époque, le papa du propriétaire m'avait dit « Oh, ils parlent d'une autoroute, mais ils en parlent depuis les années 90. Vous inquiétez pas, elle ne se fera pas, il n'y a pas de... » Voilà, elle est tombée dans les oubliettes. Et là, c'est ce truc-là qui me revient en image. Je me dis « Mais non, c'est pas possible, elle va pas se faire. Hein. » Et en fait, si, l'autoroute se fait. Ça fait quand même 11 ans que j'étais dans la maison, je suis arrivée en 2013. Je me disais, mais merde, où est-ce qu'on va aller ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On a tous les animaux, on a de l'espace, on a de la verdure, on a des arbres. Je vais jamais pouvoir retrouver quelque chose d'aussi bien qu'ici. Et j'en étais malade, j'ai pas pu aller travailler le lendemain. Et là, un jour, mon propriétaire m'appelle et me dit, voilà, on va passer avec les personnes de l'autoroute pour évaluer la maison. Bon, mais d'accord. Donc là, on a une première visite d'huissier, ils font toute la maison, ils passent, voilà, ils ont des trucs pour mesurer les pièces, ils regardent le garage, là où on habite, ils vont dans les combles, ils regardent le jardin, ils prennent des mesures. Et là, mon compagnon va les voir et il leur dit, et pour nous, comment ça se passe ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, ça n'a rien à voir avec nous, vous verrez avec votre propriétaire. Donc, ok, on verra avec notre propriétaire. Ils s'en vont. Et là, on attend, on se dit, on va avoir quelques réponses, peut-être. Et au final, pas de réponse. Personne ne nous tient au courant. Ni le propriétaire, ni les sociétés d'autoroute. On ne sait rien. Et on est là et on attend. Et là, le 6 avril, on a quelqu'un de chez Atosca, des autoroutes, qui va à la maison pour prendre un rendez-vous. Ça y est, quelqu'un vient là pour nous aider, pour notre relogement, pour nous dire voilà comment ça se passe. Donc, on a cette dame-là qui arrive, très inquisitrice, très... Ah, vous avez de gros meubles. Ah, vous avez beaucoup d'animaux. Ah, le petit, il a beaucoup de jouets. Vous pouvez vous en débarrasser ? Là, on s'est dit non. Elle ne vient pas là pour nous aider, finalement. Elle était là pour pouvoir remplir un dossier HLM. Donc là, on lui dit, mais on ne veut pas d'un appartement, on ne veut pas d'un HLM. On a 8000 m² de terrain, la maison fait 180 m² sur 3 étages. Je ne pars pas sur un petit appartement, sans jardin, sans rien, sans... Non, les uns sur les autres, non. Nous, on avait regardé sur Internet, on savait que la loi, elle nous disait que l'expropriant devait nous reloger dans les mêmes conditions. Donc on se dit, voilà, on ne partira pas sur une maison aussi grande, un jardin aussi grand, mais on va avoir une petite maison, on va avoir un petit jardin, on va pouvoir, voilà, prendre nos affaires, remettre les animaux, remettre les jouets du petit et continuer notre vie ailleurs. Et donc, cette dame-là nous dit que c'est pas possible. Pour elle, c'est HLM. Là, comment vous dire que la colère commence à monter et qu'on a préféré couper court à la conversation. Voilà, merci, au revoir. On arrête là. Quelques jours après le 6 avril 2023, on apprend que la maison est vendue. Ça y est, voilà. Par un petit coup de fil, juste, uniquement, la dame des sociétés d'autoroute. Il nous dit, bon ben voilà, la maison nous appartient. Donc moi, je passais par agence, j'avais un propriétaire que je connaissais quand même assez bien parce qu'il habite dans le village. Le propriétaire ne nous avertit pas, l'agence immobilière ne nous avertit pas, personne ne nous dit rien. Et on nous dit, voilà, juste, elle est à nous, les autoroutes. Et là, nous, on se dit, ok, très bien, on va prendre un avocat, parce que là, c'est pas possible. Ils sont en train de nous prendre pour des guignols. Je prends rendez-vous avec un avocat. Elle me dit, ben, je vais prendre le dossier en main, je vais essayer de les contacter, et puis on va voir. Entre-temps, nous, on a à nouveau le monsieur Datosca qui était venu au mois de décembre 2021, qui reprend contact avec nous, qui nous dit « on voudrait vous rencontrer ». Là, on lui dit « non, on ne veut pas vous rencontrer, on a pris une avocate. Vous prenez rendez-vous avec cette avocate, vous voyez avec elle, on ne veut plus passer par vous ». Il raccroche. Et le jour où on était censé se rencontrer, le monsieur Datosca appelle mon compagnon, lui dit « oh, c'est aujourd'hui qu'on devait se rencontrer ». Et mon compagnon lui dit « non, non, vous passez par une avocate ». Et du coup, il lui dit « Ah, mais vous êtes au travail ?» Il lui dit « Oui, oui, je suis au travail, mais voilà. » Ah, donc il lui dit « Mais c'est vous qu'on a vu partir ce matin à 7h15 dans une camionnette blanche ?» Là, quand il me raconte ça, je me dis « Comment ça, il t'a dit ça ?» On nous surveille, voilà, c'est quoi ce bordel, quoi ? L'avocate, on lui raconte, je dis « Voilà, ils ont dit ça à mon compagnon. » Ok, très bien. Ils prennent rendez-vous avec l'avocate, voilà, échange de mails, tout ça. Là, il commence à partir sur... donc, on vous propose un relogement en HLM. En gros, ou on accepte, ou alors, comme la maison leur appartenait depuis le mois de mars, du coup, on ne payait plus le loyer parce qu'ils ne sont pas bailleurs. Et voilà, ils construisent une autoroute. Ils ne sont pas là pour réclamer des loyers. Donc, nous, on nous l'avait dit. Voilà, si on, la maison nous appartient, vous ne payez plus le loyer. Très bien. Et là, la menace, ça a été, en gros, ou vous prenez le bail, ou sinon, on vous demande les arriérés de loyer. Donc là, déjà, on se dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, voilà, un jour, je découvre qu'on nous a coupé Internet. Je pars amener mon fils à l'école, et là, que je vois que sur les travaux, en fait, il y a un poteau par terre. Je dépose mon fils à l'école, je reviens, je m'arrête sur le chantier. Je regarde déjà, je vois le poteau d'un côté, les câbles de la ligne arrachés de l'autre. Je prends des photos, je vais voir le chef de chantier, je leur dis « mais qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, c'est un petit accident, on n'a pas fait exprès, on a cassé Internet. » »« Ah oui, d'accord, ok, on n'a pas fait exprès. » On appelle Orange. Le monsieur qui vient par rapport à la ligne était venu déjà quelques temps avant, donc nous reconnaît, il me dit « Ah, la ligne n'a pas tenu ». J'ai dit « Non, cette fois-ci, c'est pas chez nous, c'est sur le chantier ». Il va voir sur le chantier, il revient me voir, il me dit « Ben là, je suis désolé, on peut rien faire hein. ». Le poteau est cassé, il faut replanter un poteau, les câbles ont été arrachés. Là, ça va mettre du temps. Donc on se dit, d'accord, ils ont cassé Internet. Soit, en sachant qu'il y avait le poteau électrique et le poteau Internet. Le poteau électrique n'a pas été touché, le poteau Internet, pouf, tombé. Ensuite, on a eu droit aux engins de chantier qui étaient calés à la limite de mon terrain et qui avançaient, reculaient pendant 1 heure et demie, sans rien d'autre. On a eu ça pendant plusieurs temps. Et puis après, on a eu droit à... On faisait un barbecue en famille sur la terrasse dehors, voilà, début septembre. On se retrouve avec les hélicoptères de la gendarmerie et la caméra au-dessus de la maison. Ça, c'est choquant. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un film, c'est pas possible. On n'est pas des terroristes, on est une famille, on fait un barbecue. Voilà, donc là, je préviens mon avocate en lui disant, voilà, écoutez, coupure d'Internet. On dit à mon homme, on vous a vu partir à telle heure. Les engins de chantier qui viennent tourner devant. On se dit, voilà, c'est pour faire peur. Donc là, je pense qu'elle leur fait un petit mail et tout s'arrête. Pendant quelques mois, plus rien. C'est calme. Au mois d'avril, donc là c'était en 2024, on reçoit un mail à nouveau de notre avocate qui nous dit « Atosca vous refait une proposition, je crois que c'était 6 000 € à l'époque de dédommagement. On nous faisait cadeau, entre guillemets, des loyers si on acceptait que les autoroutes viennent couper les arbres avant le 1er avril. » Là, moi je contacte LVEL, La Voie est libre. C'est une association qui s'est créée contre cette autoroute par des personnes qui habitent les villages voisins. Ils font travailler plein d'avocates, ils sont sur plein de dossiers, ils essayent de trouver un petit peu les failles pour pouvoir empêcher la construction de cette autoroute. Et là, du coup, je leur envoie ce mail en leur disant, voilà, ils nous font cadeau des loyers, ils nous donnent 6 000 € pour partir, mais ils veulent venir couper les arbres. Moi, je ne veux pas qu'ils touchent aux arbres tant que je suis dans la maison. C'est hors de question. Donc, ils savent très bien que nous, on va avoir à partir. Nous, notre priorité, c'est notre famille. C'est nos enfants, c'est notre... Bon, là, le grand vient d'aménager avec sa compagne, mais on a le petit à la maison. Donc, on leur a dit, le jour où on a une proposition de relogement sérieuse, nous, on part. Et eux nous le disent, partez, nous, on va se débrouiller, on va sauver les arbres. Et moi, j'avais qu'une peur, en fait. J'avais vu comment ils fonctionnaient sur d'autres ZAD, voilà, Vandine, comment ils ont fonctionné, tout ça. J'avais peur que les machines viennent couper les arbres. Donc là, je me suis dit, moi, face à des machines, je pourrais me mettre devant, mais vu comment je suis gaulée, à un moment donné, on va m'attraper, on va me dire, madame, on vient couper les arbres, point. Et là, toc, 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 le soir, on toque à la porte, et là, j'ai 4-5 jeunes à la porte qui me disent, on est des écureuils, on vient t'aider. Donc les écureuils, ce sont des jeunes, et des moins jeunes, qui vont vivre dans les arbres pour empêcher qu'Atosca, que les autoroutes, coupent les arbres. Donc ils construisent des cabanes, ils se montent des hamacs, ils ont un peu d'eau, un peu de quoi de grignoter. Des fois ils n'ont rien du tout, ils ont fait des grèves de la faim, ils se mettent en danger face aux engins de chantier. Et là, moi, en fait, je les découvre en vrai, parce que je les suivais sur les réseaux, voilà, je regardais ce qui se passait sur les autres ZAD, à Vandine, un peu partout, je regardais ce qui se passait. Et eux avaient les plans du chantier, voilà, de la route, ils savaient où l'autoroute allait passer, et ils savaient quels arbres allaient être abattus. Donc on va derrière la maison, on leur montre, ils sont là avec leur petite lampe torche, ils regardent les arbres, et là ils disent, bon, mais c'est bon, en priorité, il faut protéger celui-là, celui-là, celui-là. Donc 3 noyés. Et là, paf, ils posent leur matériel au sol, ils ont leur ceinture, ils ont tout leur truc autour de la taille, mais ils montent pieds nus. Ils se mettent à escalader, mais naturellement, mes arbres, qui ont 80 ans quand même, qui sont énormes, ils m'ont dit, on n'a jamais vu des noyers comme les tiens, parce qu'ils ont poussé librement, ils sont magnifiques. Ils ont grimpé dedans, ils se sont mis dans les arbres, et ils nous ont dit, bon, mais écoute... Jusqu'au 1er avril, on reste là comme ça, à Tosca. On est sûr que là, ils ne pourront pas toucher les arbres. Et là, on souffle. Ouf, on n'est plus tout seul. « Donc tout va bien, ils restent à la maison, on leur laisse, nous, une place dans le garage. Et là, ça commence un peu à se tendre, parce que là, on se rend compte qu'il y a 2-3 maires qui ont dit qu'à un moment donné, les zadistes, ça commençait à bien faire et qu'il fallait qu'ils fassent la loi par eux-mêmes. Je suis pas une zadiste, moi, je suis une maman. Moi, je suis là pour protéger ma famille, tout simplement. Et donc, on a commencé, nous, à avoir pas mal d'insultes. Même moi, un soir, en rentrant de l'école, j'y ai eu droit. Je rentre, je ferme mon portail. Au moment où je ferme mon portail, en fait, une camionnette, travaux du bâtiment, 3 gars dedans, qui s'arrêtent et là, qui se mettent à m'insulter de colère. J'ouvre mon portail, je retourne vers eux pour aller les voir et leur dire « Qu'est-ce que t'as ? Mais viens me voir en face, viens me dire ce que tu as. » Et là, les mecs démarrent en trombe et se cassent. Donc là, nous, on l'a vécu. Et puis, on a des coups de klaxon devant la maison, des jets de déchets. Puis avoir les poubelles, voilà, ils jettent des canettes, ils jettent des bouteilles dans le fossé. Ce sont les jeunes quand même qui vont ramasser les merdes de ces idiots. Donc, on voit que ça commence à se tendre. Les jeunes, du coup, installent des lumières dans le jardin, au cas où, parce qu'on voit que quelques personnes, la nuit, viennent voir un petit peu ce qui se passe, crient, parlent avec les écureuils, certains sont gentils, certains les insultent. Donc, pour plus de précautions, ils installent des lumières. Et donc, il y a 10 jours, les jeunes organisent un spectacle à la maison. Pendant une semaine, c'est eux qui écrivent leurs textes. Ils le montent, ils le jouent, ils s'entraînent tous les soirs, ils répètent tous les jours. Le spectacle arrive le dimanche. Nous, à minuit, on va se coucher, on se met au lit. Et en fait, à 3h30, on est réveillés par des hurlements. On se lève, je vois mon jardin en feu. Mais je vois pas un feu, j'en vois 3. On descend, on va chercher des casseroles, on va chercher des bouteilles, on va chercher des seaux. Tout ce qu'on trouve à portée de main qui peut contenir de l'eau, on le prend. Moi, je prends ma première casserole d'eau, je vais au premier feu qui est devant moi, je jette cette casserole d'eau, et là, je me rends compte qu'il y a un gros bidon de 5 litres d'essence. On arrive à éteindre ce feu-là, le deuxième, le troisième. Les pompiers arrivent. Là, ils voient aussi, comme nous, les bidons. Donc là, ils nous regardent, ils nous disent « on appelle la police ». La police arrive, les pompiers leur montrent, voilà, il y a plusieurs bidons. Sur les 3 départs de feu, les personnes qui ont mis le feu, en fait, ont tout laissé. Ils ont laissé des briquets, ils ont laissé une espèce de chalumeau. Il y a un bidon, même sur la route, ils ont tout laissé. On me dit « vous voulez déposer plainte ?» Je dis « oui, bien sûr, je dépose plainte, il n'y a pas de souci ». On transmet aux collègues. Vous y allez, ils sauront ce qui s'est passé ici et vous verrez avec eux. Je vais déposer plainte. Voilà, la gendarmerie, je raconte le déroulé. Voilà, tout ce qui s'est passé depuis, en fait, au tout début, avec le monsieur qui est en face de moi, jusqu'à en venir aux incendies, voir tout ça. Et là, je lui dis que clairement, heureusement que les écureuils, les jeunes, les personnes qui sont venues assister au spectacle et qui ont dormi sur place, heureusement que cette personne était là, parce qu'il y avait une 20aine à peu près de personnes, et ça a permis d'éteindre le feu. Aux policiers, je leur dis, mais si les jeunes n'avaient pas été là, ça aurait pu être 3 sacs mortuaires. Le feu se serait propagé, parce que j'ai plein de sapins sur le jardin, c'était sec, on serait plus là aujourd'hui. On prend quand même le contre-coup un peu dans la figure de se dire waouh, ça commence quand même à prendre des proportions assez importantes. Je veux dire qu'on est des pressions, voilà, les gars du chantier, tout ça, les insultes, c'est une chose. Mais de là à venir mettre le feu, c'en est une autre. Là, ça commence à devenir dangereux. On pense pas qu'ils vont revenir une seconde fois, on se dit bon, ils ont voulu nous faire peur. Ils veulent nous mettre la pression, le chantier prend du retard à cause de nous. On voit vraiment que nous, si on bouge pas, l'autoroute, elle se fait pas. Mais ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Et en fait, du tout. Le dimanche 1er septembre, à 7h du matin, la veille de la rentrée, déjà, on est réveillé à 4h du matin. Moi, j'ai un écureuil qui monte dans la maison me dire « Alex, on est encerclé par la gendarmerie. » Donc là, je me lève, je vais dans le jardin et là, je me raconte qu'il y a, je sais pas, 30, 40 gendarmes sur le chemin communal derrière la maison. Donc je vais voir le gendarme, le plus haut gradé, qui me dit, écoutez, nous, on vient pas pour vos arbres, on vient pour les arbres sur le chemin communal. Je dis, écoutez, nous, chez nous, ils vont se tenir à carreau, ils n'interviendront pas. Par contre, voilà, vous, de votre côté, faites de même. Personne chez moi. On m'a dit, non, pas de problème. Là, une première machine arrive, un arbre tombe, on entend les craquements, l'arbre qui tombe, ça fait mal au cœur. Et puis, dans la foulée, une tronçonneuse qui s'allume. Et là, on se dit, non, c'est pas possible, 4 heures du matin, une tronçonneuse, ils vont pas faire ça. Et si, là, on a quelqu'un qui abat un second arbre à la tronçonneuse. Là, je vais voir le plus haut gradé à qui j'avais parlé. Je dis, écoutez, là, ça va pas être possible. Il est 4 heures du matin, j'ai un petit bout de 4 ans à la maison. Il fait sa rentrée demain matin. Vous pouvez pas faire de la tronçonneuse à 4 heures comme ça et abattre les arbres. L'arbre tombe, le monsieur s'en va. Moi, je rentre à la maison, impossible de dormir. Je me mets un petit film, je regarde mon film. Et là, 7h15, on entend à nouveau crier. Je descends, et là, quand je suis en bas de chez moi, je vois ma voiture, je vois 4 personnes habillées de noir, avec une cagoule, on voit juste les yeux. Il y en a un qui me regarde dans les yeux, et là je vois qu'il jette quelque chose dans ma voiture, ça s'enflamme, les 4 gars s'en vont, ils partent vers le portail. Moi je me dis, putain, ma voiture, il y a le camion de mon compagnon, de son travail, avec tout son outillage, tout ça, juste à côté, il y a la maison. Là de suite je me dis, il faut pas que le feu se propage à la maison. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi, je ne vois pas, qui attrape l'instincteur, vite, se met à le vider dans la voiture. Moi, je retourne vers la maison, j'allume l'eau, je tire le tuyau vers la voiture. Je noie ma voiture aussi. À un moment donné, je me dis, c'est bon, elle a suffisamment d'eau. Et là, je vois quelqu'un revenir vers moi en me disant, putain, ils m'ont aspergé d'essence. Donc, je lui mets le jet d'eau sur la tête, il se rince. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a le feu au portail. Il y a un feu énorme, tout le portail est embrasé. Les jeunes arrivent avec des seaux, comme la première fois, ils chopent des seaux, ils chopent des poubelles, ils chopent ce qu'ils ont sous les mains. J'arrive moi au portail avec mon premier seau d'eau, je vide mon seau sur le feu. Et là, ça fait une énorme boule de flamme. Le feu, on dirait qu'il a explosé. Et là, on entend quelqu'un qui a réussi à passer derrière la route. On le voit qu'il est avec un drap, une couverture, une serviette, je ne sais pas trop, et qu'il nous dit « Arrêtez de jeter de l'eau, stop, ça suffit !» Il hurlait, il nous disait « Stop, plus d'eau, mouillez des couvertures, mouillez des draps, posez-les dessus !» Donc là, on remplit une poubelle d'eau, tout le monde arrive avec des couettes, avec des vêtements, avec des serviettes, tout le monde trempe, et on jette ses couvertures sur les flammes pour pouvoir éteindre. Ils n'ont pas hésité à enlever leur veste, à taper les flammes avec leurs vestes, à marcher pieds nus sur leurs vêtements pour pouvoir éteindre leurs flammes. Et on arrive à nouveau à éteindre ce second incendie. On n'a aucune idée de qui ça peut être. On a réussi à avoir quelques photos qu'on a transmises à la gendarmerie. Donc maintenant, il va falloir attendre de voir s'ils arrivent à trouver quelque chose ou pas. Voilà. Donc là, la voiture ne fonctionne plus. Donc on se retrouve, on n'a plus de voiture. On habite, nous, à l'extérieur du village. Donc l'école est à 4 km. Je suis en accident de travail, j'ai un genou foutu qui ne se remettra pas non plus. Donc heureusement qu'il y a une énorme solidarité tout autour de nous. Parce qu'ils ont créé un petit groupe qui s'appelle Taxi Oui Oui, où des personnes se proposent pour nous accompagner. Elles viennent le matin nous récupérer pour nous amener à l'école, qu'on puisse déposer le petit. Et elles reviennent nous chercher à 11h30 pour récupérer le petit à midi moins le quart. Là, j'avais besoin de faire de courses. Une dame est venue me récupérer. Elle habite à 20 minutes de chez moi. Elle m'a menée aux courses, me ramener à la maison. Voilà, on a une formidable solidarité qui s'est faite autour de nous.
On a reçu il y a quelques jours le courrier d'huissier qui nous propose deux solutions de relogement en appartement. De 60 mètres carrés, des brouettes. Il y en a un qui est au cinquième étage. Au mois de juin, on m'a aussi proposé de me prêter pendant quelques mois une maison qui se trouve pas très loin d'ici à Montcabrier. Mais c'est une maison qui a été expropriée, que plus personne ne veut, parce qu'en fait, d'un côté, vous avez la nationale, et de l'autre, dans le jardin, vous avez l'autoroute. Voilà, donc moi, je n'en veux pas non plus. Il faut qu'ils nous fassent une proposition correcte. Moi, ça fait 11 ans que je vis ici. Je me lève tous les jours, j'ai le chant des oiseaux. J'ai plus de 60 arbres, moi, sur le terrain. On a plein de fruitiers dans le jardin. On a un potager, on s'est installé le poulailler. On se fait les confitures avec nos propres fruits. On a envie de manger une cerise. On a qu'à aller dans l'arbre. Là, en ce moment, c'est les figues. On n'a pas fait tout ça pour vivre dans un appartement. Moi, je veux retrouver une maison et retrouver une sérénité que j'avais ici. Là, on est en train vraiment d'avoir peur. Ils veulent à tout prix nous faire partir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On voyait que la première fois, il y avait des produits inflammables. La deuxième fois, c'était des produits inflammables, plus des cocktails Molotov. La maison aurait pu prendre feu, ils s'en foutent. Ça fait deux fois qu'ils viennent. Et la troisième fois, ça va être quoi? Et on commence vraiment à craindre pour nous. Il y a deux jours, je me suis effondrée. J'ai plus de son, plus d'image, j'ai les jambes qui ont cédé, je suis tombée. J'ai fait peur aux jeunes, les pauvres en bas. Mais j'ai les jambes qui ont cédé parce que j'en peux plus. J'arrive plus à manger, j'arrive plus à dormir. On ne peut plus vivre comme ça, c'est pas possible. J'en suis toujours à regarder, voilà, qui c'est qui peut être derrière moi en voiture, qui c'est qui peut être dans la maison. S'il y a du bruit dehors, je regarde. Si je vois des ombres passer, je regarde. Je suis en panique. Je me dis, est-ce que la prochaine fois, ils vont arriver par devant, par derrière, sur un côté? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va être le feu directement contre la maison? Est-ce que ça sera à nouveau les arbres? Est-ce que ça sera à nouveau des voitures? Voilà. Ça se passe que dans les films, ça. C'est pas la vie réelle.
On my life, you never made me sacrifice. Demons err on my trail. I'm standing at the crossroads of a hill. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side.
C'était l'irréductible Alexandra et l'autoroute A69, un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Sachez qu'au moment où nous enregistrons cette émission, nous apprenons que le 12 septembre, Alexandra et sa famille ont finalement accepté une petite indemnisation et un relogement temporaire, je le précise aussi, dans un appartement. Merci à elle et à Emmanuel Riondet. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien.